Chapitre 6. Lumière matinale. Slick passa la nuit sur un morceau de mousse grise rongé sous un établi au rez-de-chaussée de la factory, enveloppé dans un drap de papier bulle bruyant qui empestait les monomères libres. Il rêva de Kid Africa, de sa voiture. Et dans son songe, les deux se mélangeaient et les dents du Kid étaient de petits crânes d'acier. Il s'éveilla lorsqu'un vent fort poussa la première neige de l'hiver à travers les vitres vides du bâtiment. Il resta allongé là et repensa au problème de la scie circulaire du juge au poignet qui avait tendance à se bloquer lorsqu'il s'agissait de couper une matière plus épaisse qu'un circuit imprimé. Au départ, il avait envisagé d'installer sur la main des doigts articulés s'achevant tous sur une tronçonneuse électrique miniature. Mais il avait fini par abandonner cette idée, pour plusieurs raisons. Pour commencer, l'électricité ne convenait pas. Ce n'était pas assez physique. Il fallait utiliser de l'air, de grosses cuves d'air comprimé, ou une combustion interne si l'on trouvait les pièces. Et on pouvait en dégoter de toutes sortes à Dog Solitude, pour peu que l'on fouille assez longtemps. Au pire, il restait une demi-douzaine de villes du New Jersey désindustrialisées avec des hectares de machines en panne sur lesquelles on pouvait se servir. Il sortit de sous le banc, puis traîna sa couverture transparente de minuscules oreillers en plastique, comme une cape. Il songea à l'homme sur le brancard, dans sa chambre, et à Chérie qui dormait dans son lit. Elle ne devait pas avoir de courbatures, elle. Il s'étira et grimaça. Gentry n'allait pas tarder à rentrer. Il devrait lui expliquer à lui qui n'aimait pas recevoir. Little Bird avait préparé du café dans la pièce qui faisait office de cuisine à la factory. Un sol de carreaux de vinyle au motif arrondi et un évier en acier terni le long d'un mur. Les fenêtres étaient recouvertes de bâches translucides qui s'y collaient ou s'en décollaient au gré du vent et laissaient entrer une lueur laiteuse qui intensifiait l'impression de froid de la salle. « On en est où avec l'eau ?» demanda Slick en pénétrant dans le local. Entre autres attributions, Little Bird devait vérifier les cuves sur le toit tous les matins et en retirer les feuilles mortes ou parfois des cadavres de corbeaux. Puis, il devait s'assurer de l'étanchéité des filtres et envoyer 40 nouveaux litres en cas de pénurie imminente. Il fallait presque une journée pour filtrer 40 litres dans le système jusqu'à la cuve de récupération. Si Gentry tolérait Little Bird, c'était surtout parce qu'il s'en occupait avec diligence, mais sans doute aussi à cause de sa timidité. Il parvenait à rester quasi invisible de Gentry. « On n'en manque pas !» dit Little Bird. « Y a moyen de se doucher ?» demanda Chérie de la vieille caisse en plastique où elle était assise. Elle avait des cernes sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi, mais elle avait caché la contusion avec du maquillage. « Non !» dit Slick. « Pas cette période de l'année !»
C'est bien ce que je me disais. Regretta Chérie, recroquevillée dans ses vestes en cuir.
Slick se servit le reste de café et se planta debout devant elle pour le boire.
« T'as un problème ?» demanda-t-elle.
« Ouais. Toi et le type là-haut.
Comment ça se fait que t'es ici ?
T'es en pause ou quoi ?»
Elle sortit un beeper noir de la poche du dernier blouson enfilé.
« Si ça bouge, ce truc me prévient. »
T'as bien dormi ?
Ouais.
Pas mal ?
Pas moi.
Depuis quand tu travailles pour Kid Africa, chérie ?
À peu près une semaine.
T'es vraiment medtech ?
Elle haussa les épaules sous ses vestes.
Assez pour m'occuper du compte.
Le compte ?
Ouais, le compte.
Le Kid l'a appelé comme ça une fois.
Little Bird frissonna. Il n'avait pas encore sorti ses accessoires de coiffure et ses cheveux partaient donc dans tous les sens.
« Et si c'était un vampire ? » déclara-t-il.
Chérie le dévisagea. « T'es sérieux ?» Les yeux écarquillés, Little Bird secoua la tête d'un air grave. Chérie se tourna vers Slick.
« Il a pas une case en moins, ton pote ?»«
Y a pas de vampire !» dit Slick à Little Bird, ça n'existe pas, tu comprends ?
C'est que dans l'estime.
Le gars, là, c'en est pas un, d'accord ?
Little Bird acquiesça lentement, sans paraître rassuré pour autant.
tandis que le vent tendait la bâche en plastique contre la lumière laiteuse. Il tenta de travailler toute la matinée sur le juge, mais Little Bird avait de nouveau disparu et l'image de la silhouette sur le brancard le hantait. Il faisait trop froid. Il allait devoir tirer une ligne depuis le territoire de Gentry au sommet de la factory et aller chercher des radiateurs électriques. Mais il lui faudrait marchander avec Gentry. Car, comme il était le seul à savoir le détourner de l'autorité nucléaire, le courant lui appartenait. Slick entamait son troisième hiver à la factory. Mais Gentry y était déjà depuis 4 lorsque Slick avait découvert l'endroit. Quand ils avaient bâti le loft de Gentry, Slick avait hérité de la chambre où il avait installé Sherry et celui que Kid Africa appelait le comte d'après elle. Comme il y avait débarqué le premier et qu'il y avait apporté l'électricité à l'insu de l'autorité nucléaire, Gentry avait décidé que la factory lui appartenait. Mais Slick s'y occupait de beaucoup de choses que Gentry négligeait, notamment s'assurer qu'il y avait de quoi manger et si une grosse panne se déclarait en cas de court-circuit ou de filtre d'eau bouché, c'était lui qui réparait avec ses outils. Gentry n'aimait pas les gens. Il passait des journées entières avec ses interfaces, ses orgues FX et ses projecteurs holo, et il ne sortait que lorsqu'il avait faim. Slick ne comprenait pas ce que Gentry cherchait à faire, mais il lui enviait l'étroitesse de ses obsessions. Rien n'atteignait Gentry. Kid Africa n'aurait jamais pu le faire chanter, parce qu'il ne serait jamais allé à Atlantic City se mettre dans la merde jusqu'à lui être redevable. Il entra dans sa chambre sans frapper, et Sherry, équipée de gants jetables blancs, lavait le torse de l'homme avec une éponge. Elle avait monté le réchaud au butane de la pièce, où il cuisinait et réchauffait de l'eau dans un saladier en inox. Il s'efforça de regarder le visage aux traits tirés, les lèvres flasques juste assez ouvertes pour dévoiler des dents jaunes de fumeur. C'était une gueule de la rue, du peuple. Une gueule qu'on aurait pu croiser dans un bar. Elle leva les yeux vers Slick. Il s'assit au bord du lit où elle avait défait son sac de couchage et l'avait étalé comme une couverture, le bout ouvert coincé sous la mousse. « Faut qu'on parle, chérie. Faire en sorte que ça fonctionne. Tu vois ?» Elle serra l'éponge au-dessus du saladier. « Comment tu t'es retrouvé embringué avec Kid Africa ?» demanda-t-il. Elle mit l'éponge dans un sac congélation qu'elle rangea dans le bagage en nylon noir qui venait de l'aéro du Kid. En la regardant, il remarqua qu'elle ne faisait aucun mouvement superflu de façon automatique.
« Tu connais un endroit qui s'appelle le Moby Jane ?»«
Non. » »«
Un rade au bord de l'autoroute. Un de mes potes en était le gérant depuis un mois à peu près, quand j'ai emménagé avec lui. Moby Jane, c'est une femme énorme. Elle reste assise au fond du bar dans une cuve de flottaison avec son freebase en intraveineuse dans le bras, vraiment dégueulasse. Donc, comme je disais, je me suis installé là-bas avec mon ami Spencer. C'est le nouveau gérant. Parce que j'avais des problèmes avec mon permis à Cleveland et que je ne pouvais alors pas bosser.
Quel genre de problème ?
Des problèmes, c'est tout. Tu veux que je te raconte ou pas ? Donc, Spencer m'a expliqué dans quel sale état se trouvait la proprio. Et moi, je n'avais aucune envie qu'on découvre que j'étais une medtech. Sans quoi, il m'aurait foutu à changer les filtres de sa cuve et à injecter du freebase dans cette tarée de 200 kilos en train d'halluciner. Mais je me suis retrouvée serveuse à apporter des bières aux clients. Ça m'allait. Il y avait de la bonne musique là-bas. C'était un peu chaud comme endroit, mais personne ne m'emmerdait parce qu'il savait que j'étais avec Spencer. Sauf qu'un matin, je m'aperçois que Spencer n'est plus là. Il se trouve qu'il s'est barré avec un gros tas de fric à eux. En parlant, elle essuyait le torse du dormeur avec un morceau de papier absorbant blanc. Alors, ils m'ont un peu malmené. Elle leva les yeux vers lui et haussa les épaules. Puis ils m'ont dit ce qu'ils allaient faire. Ils allaient m'attacher les mains dans le dos et me foutre dans la cuve avec Moby Jane, augmenter sa dose et lui dire que mon copain lui avait piqué de la thune. Elle jeta le papier humide dans l'évier. Alors ils m'ont enfermé dans un placard, histoire de me laisser réfléchir un peu avant de s'y mettre. Mais lorsque la porte s'est ouverte, je me suis retrouvé face à Kid Africa. Je ne l'avais jamais vu. Il m'a dit « Mademoiselle Chesterfield, il me semble que vous étiez encore récemment technicienne médicale. »
« Et ? Il t'a donc fait une proposition ?»«
Proposition, mon cul ?
Il a simplement vérifié mes papiers et m'a sorti de là. Il n'y avait personne d'ailleurs alors qu'on était samedi après-midi. Il m'a emmené jusqu'au parking où était garé cet aéro avec des crânes à l'avant et deux grands noirs qui nous attendaient. Moi, tant que je m'éloignais de cette cuve de flottaison, ça m'allait. Il avait notre pote dans son véhicule ? Non, elle retira les gants. Il m'a ramené à Cleveland, dans sa banlieue, de grosses baraques anciennes. Mais avec des herbes hautes, les pelouses plus du tout entretenues. Il est entré dans une, qui était super bien gardée, la sienne, j'imagine. Il y avait lui, là, dit-elle en remontant le sac de couchage bleu jusqu'au menton de l'homme, dans une chambre. J'ai dû m'y mettre direct. Kin m'a promis qu'il me paierait bien. Et tu savais qu'il t'amènerait ici, jusqu'à Solitude ? Non. Et lui non plus, je pense. Il s'est passé quelque chose. Il a débarqué le lendemain et a annoncé qu'on se barrait. Je crois qu'il a eu peur d'un truc. C'est là qu'il l'a appelé comme ça, le comte. Parce qu'il était en colère et qu'il avait un peu les jetons, je crois. Le comte et son putain de LF, qu'il a dit. Son quoi ? Son LF. C'est quoi ? Ça, je crois, dit-elle en montrant l'appareil gris, sans marque distinctive, fixé au-dessus de la tête de l'homme.